toi. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir.
Bonjour et bienvenue à La Révolution sera féministe. Alors aujourd'hui, mon thème principal sera ce qu'il en est des lois, surtout en Europe et après j'irai en France, par rapport aux viols et aux violences sexuelles. Et puis d'abord, je commencerai à parler de l'année 2018 qui se termine bientôt. Grâce à un billet de Kumi Naidoo, qui est le secrétaire général d'Amnesty International, et qui revient sur les victoires et les défis pour les droits humains au cours de l'année 2018, et en fait qui retrace ce qu'il en a été par rapport à la réalité de la situation des droits des femmes. Donc le monde célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un document extraordinaire qui a été adopté le 10 décembre 1948 et qui a rassemblé la communauté internationale dans une démonstration d'unité sans précédent et a établi pour la première fois une déclaration des droits applicable à toutes les personnes, s'attaquant ainsi au fondement même de l'injustice à travers le monde. Pourtant, 70 ans plus tard, nous voyons une économie mondiale en berne donner naissance à des personnages grandiloquents qui utilisent des postures machistes, misogynes, xénophobes et homophobes pour se donner l'apparence de dirigeants durs à cuire. Cela évoque la montée du fascisme dans les années 1930, qui est survenue à la suite d'une dépression économique et a culminé avec les abominations de l'Holocauste. L'une des réponses apportées à ces événements a été l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. En 2018, nous avons vu nombre de ces dirigeants durs à cuire tenter de saper le principe même d'égalité qui constitue le socle des droits humains. Ils ont cherché à diaboliser et persécuter des groupes de population déjà marginalisés et fragilisés. Mais la lutte pour l'égalité s'est illustrée de façon particulièrement retentissante et visible dans le combat pour le droit des femmes. Le pouvoir de la voix des femmes. En 2018, dans le monde entier, des femmes ont été en première ligne du combat pour les droits humains. En Inde et en Afrique du Sud, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les violences sexuelles endémiques. En Arabie Saoudite et en Iran, des militantes ont bravé le risque d'une arrestation en résistant respectivement à l'interdiction de conduire et à l'obligation de porter le hijab, voile islamique. En Argentine, en Irlande et en Pologne, de très nombreuses personnes se sont rassemblées pour réclamer la suppression de lois répressives sur l'avortement. Aux États-Unis, en Europe et au Japon, des millions de personnes ont participé à la deuxième marche des femmes organisée dans le cadre du mouvement MeToo, demandant la fin de la misogynie et des atteintes aux droits des femmes. Dans le nord-est du Nigeria, plusieurs milliers de femmes déplacées se sont mobilisées afin de réclamer justice pour les violences qui leur ont été infligées par des combattants de Boko Haram et ensuite par les forces de sécurité nigérianes, où elles ont en fait subi des viols. Le pouvoir grandissant de la voix des femmes ne doit pas être sous-estimé. Encouragé par les puissants appels qui ont été lancés pour que les droits des femmes soient enfin respectés, les Irlandais et Irlandaises ont massivement voté pour la suppression de l'interdiction de l'avortement. En Arabie Saoudite, les femmes ont enfin obtenu le droit de conduire. Malheureusement, les défenseuses des droits des femmes, petite parenthèse, sont toujours persécutées malgré tout. En Islande et en Suède, de nouvelles lois ont été adoptées, reconnaissant qu'un acte sexuel non consenti constitue un viol. Donc je reviendrai d'ailleurs sur ces lois, la législation par rapport au viol en Europe. Alors ça, c'est une avancée donc en Islande et en Suède. Ce n'est pas le cas pour la plupart des pays de l'Europe. J'y reviendrai tout à l'heure. Aux États-Unis, des accusations d'abus sexuels ont ébranlé le système patriarcal hollywoodien, remettant en cause des décennies d'impunité. Alors revenons sur la dure réalité de la situation des droits des femmes. Nous ne pouvons cependant pas célébrer cette formidable montée du militantisme féminin sans souligner les raisons pour lesquelles les femmes ont besoin de se battre si âprement. En effet, en 2018 encore, de nombreux gouvernements soutiennent ouvertement des politiques et des lois qui assujettissent et répriment les femmes. À l'échelle de la planète, 40% des femmes en âge de procréer vivent dans des pays où l'avortement reste soumis à de fortes restrictions. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple, Malte est encore un pays où l'avortement est strictement interdit sous aucune condition. Quelque 225 millions de femmes n'ont pas accès à des moyens de contraception modernes. Malgré des campagnes militantes de grande ampleur, le Salvador a maintenu la répression pénale de l'avortement en toutes circonstances. D'ailleurs, récemment, donc, une jeune femme a été emprisonnée pour avoir fait une fausse couche. Et le Sénat argentin a rejeté à une faible majorité un projet de loi qui aurait autorisé l'avortement pendant les 14 premières semaines de grossesse. Parallèlement, en Pologne et au Guatemala, les décideurs politiques continuent de défendre un durcissement des lois sur l'avortement. Et aux États-Unis, la réduction du financement des centres de planning familial met en danger la santé de plusieurs millions de femmes. La violence liée au genre touche de façon disproportionnée les femmes, les personnes transgenres et les personnes ne se conformant pas aux normes en matière de genre. Mais les responsables politiques continuent de ne tenir aucun compte de cette véritable crise en matière de droits humains. En juillet, la Bulgarie a choisi de ne pas ratifier la Convention d'Istanbul, un traité européen sur la lutte contre la violence domestique et la violence à l'égard des femmes. La Cour constitutionnelle bulgare l'ayant jugée contraire à la Constitution. En août, le Luxembourg a été le 33e État à ratifier cette convention d'Istanbul. Toutefois, si un nombre relativement élevé d'États européens se sont ainsi engagés à respecter ces dispositions, les chiffres continuent de faire état d'une situation très inquiétante. Une fille sur 10 à l'échelle planétaire serait agressée sexuellement avant l'âge de 20 ans. Seulement un tiers des pays de l'Union européenne reconnaissent que les actes sexuels non consentis constituent un viol. Donc j'y reviendrai juste tout à l'heure. Dans d'autres régions du monde, des femmes vivant dans des zones de conflit au Nigeria, en Irak, au Soudan du Sud et au Myanmar ont décrit les terribles violences sexuelles qu'elles avaient subies, souvent aux mains des forces de sécurité de leur propre pays. Il faut savoir que le viol utilisé aussi dans les conflits comme arme de guerre est de plus en plus commun. Partout dans le monde, des femmes en but à des discriminations croisées, fondées notamment sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur appartenance ethnique, leur couleur de peau ou leur situation économique et sociale, sont victimes de violations de droits humains supplémentaires spécifiques. En Somalie, par exemple, les femmes handicapées sont souvent soumises au mariage forcé et à la violence domestique. Au Canada, les femmes autochtones risquent 6 fois plus d'être assassinées que les autres femmes. Et donc, il faudrait que soient reconnues les conséquences de ces formes croisées de discrimination pour que les voix des femmes les plus marginalisées soient entendues. Alors, face à la résistance et au militantisme des femmes, je peux rappeler aussi la marche Nous Toutes qui s'est passée récemment en France et à Marseille, et qui a eu pas mal de succès. Face à la résistance et au militantisme des femmes, par contre, on assiste à des groupes opposés à la promotion de ces droits, que ce soit en Amérique latine, en Europe. Et ces groupes adoptent une nouvelle stratégie de répression qui consiste à disqualifier les féministes et les défenseurs des droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles LGBTI, de partisans d'une idéologie de genre qui, selon eux, menace l'existence même des valeurs liées au mariage et à la famille. Ces groupes de répression tentent souvent de réduire au silence les femmes et les personnes LGBTI engagées dans la défense des droits humains, notamment au moyen de campagnes insultantes en ligne, sur les réseaux sociaux notamment. En conséquence, les personnes, quel que soit leur genre, qui militent contre les inégalités liées au genre, doivent aussi se battre pour défendre simplement leur droit de s'exprimer. Alors, si vous voulez, il y a aussi une étude réalisée par Amnesty International cette année sur les droits humains et violences en ligne contre les femmes, et c'est l'une des premières de ce type. Et c'est une étude qui confirme ce que de nombreuses femmes savent déjà, c'est-à-dire que les réseaux sociaux se révèlent être à la fois une bénédiction et un fléau. Les entreprises et les gouvernements n'ont absolument rien fait pour protéger leurs utilisateurs face au déluge de violences en ligne qui a conduit de nombreuses femmes en particulier à s'auto-censurer, voire à abandonner complètement les plateformes. À l'inverse, les réseaux sociaux ont donné une plus grande visibilité dans certaines régions du monde aux appels lancés par des femmes pour l'égalité au travail, un combat mené depuis des décennies, voire des siècles, qui a cependant bénéficié d'un regain d'attention cette année, avec les appels réclamant une diminution de l'écart de rémunération lié au genre, qui est actuellement de 23% à l'échelle mondiale. Non seulement les femmes à travers le monde sont moins payées en moyenne que les hommes, mais en outre, elles sont plus susceptibles de travailler sans rémunération et d'occuper des emplois informels, dangereux et peu qualifiés. Ce phénomène est dû en grande partie aux normes sociales qui accordent une moindre valeur aux femmes et à leur travail. Sans l'égalité au travail, les femmes continueront d'être les plus durement touchées par l'économie mondiale en fragile reprise. Au Royaume-Uni, les femmes ont, selon certaines informations, supporté 86% du poids des mesures d'austérité mises en place depuis 2010 en raison de leur dépendance à l'égard des prestations sociales. Tout au long de l'histoire, ou presque, les femmes ont été en butte à une discrimination due à la hiérarchie homme-femme et aux normes de genre. Il est essentiel qu'elles participent aux affaires politiques pour que les lois qui confortent les inégalités économiques et sociales puissent être combattues. Même si un nombre record de femmes ont brigué une charge publique en 2018, les progrès réalisés restent malheureusement très lents. Il faut savoir qu'actuellement dans le monde, seulement 17% des chefs d'État ou de gouvernement et 23% seulement des parlementaires à travers le monde sont des femmes. Alors, 2019 sera-t-elle l'occasion de faire changer les choses ? Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme devrait donner l'occasion de réfléchir à ce qui a constitué pour toutes les femmes et tous les hommes ayant participé à sa création un succès historique. Il faut savoir que c'est grâce au travail de pression soutenu d'une femme qui s'appelait Ansa Mehta que la formulation de l'article 1 de la Déclaration a pu être modifiée, passant de « tous les hommes naissent libres et égaux » à « tous les êtres humains naissent libres et égaux ». Donc, faut se rappeler aussi que à la Révolution française, la Déclaration de 1789 ne concernait que vraiment que les hommes. Les femmes révolutionnaires de l'époque, comme Olympe de Gouges, Olympe de Gouges avait été même guillotinée pour avoir prétendu que les femmes pourraient être libres et égales aux hommes. Donc cette, en tout cas, donc, en 1948, Ansa Mehta a eu raison de s'inquiéter et de penser que les femmes allaient être exclues des protections mises en place. En effet, 70 ans plus tard, donc aujourd'hui, nous nous battons encore pour que les droits des femmes soient enfin reconnus en tant que droits humains. Pour remédier à cette situation, les gouvernements devraient de toute urgence et de façon prioritaire s'engager véritablement. Et pour cela, il existe, faut savoir qu'il existe une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui constitue une déclaration internationale des droits des femmes. Donc il serait bon que les gouvernements la mettent vraiment en œuvre au niveau national. Cette convention a été... faut savoir qu'il y a 189 États partis à cette convention et que c'est le deuxième traité relatif aux droits humains le plus ratifié. Cependant, les gouvernements se contentent souvent de reconnaître ces droits en parole uniquement. Alors... Je vais faire une petite pause musicale. Donc, avec Fanfo, une chanson qui s'appelle Fanfo. Révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, après une vue d'ensemble du droit des femmes et des mouvements féministes en 2018 qui ont été très actifs, je vais revenir en Europe par rapport aux lois européennes qui sont dépassées en matière de viol et qui portent préjudice aux femmes partout en Europe. En effet, la plupart des pays européens ne reconnaissent toujours pas légalement que les actes sexuels non consentis constituent un viol. Donc à ce propos, il est sorti un rapport publié par Amnesty International qui rappelle que partout en Europe, les lois concernant le viol sont défaillantes et promeut finalement une dangereuse culture de culpabilisation des victimes et perpétue l'impunité. Alors, bien que des mouvements comme MeToo aient poussé de nombreuses femmes à parler de leur vécu, la triste vérité est que les viols restent très largement, sous-signalés en Europe. Les craintes des femmes de ne pas être prises au sérieux sont encore et encore confirmées par des lois dépassées et néfastes qui portent préjudice aux courageuses victimes qui tentent d'obtenir justice et par le traitement lamentable que les autorités judiciaires leur réservent. Les lois ont le pouvoir de permettre aux victimes d'obtenir justice et d'influencer les attitudes. À maintes reprises, des études ont montré que de nombreuses personnes ne considèrent pas que les faits constituent un viol si la victime était ivre, si elle portait une tenue légère ou si elle ne s'est pas physiquement débattue. Un rapport sexuel sans consentement est pourtant un viol, point final. Tant que les gouvernements ne mettront pas leur législation en conformité avec ce fait très simple, les responsables de viol resteront impunis. D'après la dernière étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, une femme sur 20 dans l'Union européenne a déclaré avoir été victime de viol après l'âge de 15 ans, soit environ 9 millions de femmes. Malgré ces chiffres choquants, peu de pays européens traitent ce crime avec le sérieux juridique qu'il requiert. Je reviendrai donc aussi particulièrement sur la loi du projet du gouvernement et le problème aussi de la non-âge de minorité tout à l'heure avec la parole de Muriel Saloma. Donc sur les 31 pays sur lesquels porte le rapport qui est sorti récemment donc, d'Amnesty, seuls l'Irlande, le Royaume-Uni, la Belgique, Chypre, l'Allemagne, l'Islande, le Luxembourg et la Suède définissent les actes sexuels non consentis comme un viol. La Suède a modifié la définition il y a seulement quelques mois, comme je vous disais tout à l'heure, après des années de campagne d'organisations féministes et aussi d'Amnesty International. Les autres pays qui sont l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suisse ne reconnaissent pas le consentement. Donc, dans tous ces pays, la définition juridique du viol est fondée sur l'usage de la force, la menace de l'usage de la force, la contrainte ou l'incapacité de la victime à se défendre. Il est également préoccupant que certains pays considèrent les actes sexuels non consentis comme une infraction spécifique d'une gravité moindre, laissant entendre que des faits ne correspondent à un vrai viol qu'en cas de recours à la violence physique. Par exemple, en Croatie, les relations sexuelles non consenties sont passibles d'une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement contre 10 ans pour le viol. Donc c'est vraiment moindre. Dans certains pays, bien pire encore, le viol et les violences sexuelles sont toujours soumis aux notions de crimes liés à l'honneur ou à la morale, ce qui encourage l'idée que la société a le droit de contrôler le corps des femmes. À Malte, par exemple, les infractions à caractère sexuel relèvent du chapitre « Crimes contre le bon ordre dans la famille ». Donc c'est le même pays où l'avortement est complètement interdit. Les définitions du viol fondées sur le consentement et les réformes juridiques ne sont pas des solutions miracles pour lutter contre ce crime omniprésent et pour l'empêcher, mais elles constituent bien un bon point de départ. Donc n'importe qui peut être victime de viol, quel que soit son genre. Cependant, il s'agit d'un crime qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles. Et donc les femmes voient leur tentative d'obtenir justice entravée non seulement par des lois dépassées, mais également par les préjugés, la culpabilisation des victimes, les stéréotypes, les mythes négatifs, souvent véhiculés par les personnes chargées de fournir un soutien aux victimes, d'enquêter sur les infractions à caractère sexuel et d'en poursuivre les auteurs. Donc pourtant, au cours de cette année 2018 qui va bientôt s'achever, on a quand même assisté à, heureusement, une vague de protestations contre le viol. Des femmes de nombreux pays se sont ainsi unies pour exprimer leur indignation face aux affaires de viol très médiatisées et pour exiger que leur gouvernement leur fournisse une meilleure protection. Et donc, on peut espérer que les choses commencent à bouger pays après pays, comme effectivement ça a bougé là en Islande et en Suède, qui sont devenus les 7e et 8e pays d'Europe sur 31, donc, à adopter cette nouvelle loi, basant la définition du viol sur l'absence de consentement, et pas seulement sur la force. Donc ces victoires ne sont pas dues au hasard, elles sont l'aboutissement de nombreuses années de dur labeur menées par des militantes féministes qui ont revendiqué leur droit d'être protégées contre la violence sexuelle. Ces changements ont été obtenus grâce à la mobilisation d'innombrables femmes qui sont trop souvent trahies par des systèmes judiciaires qui refusent de reconnaître les effets dévastateurs des crimes qu'elles ont subis ou qui ne leur accordent pas de réparation. Et donc justement, tout à l'heure, je vous laisserai parler Muriel Salmona par rapport à qui est une psychiatre spécialiste en fait des traumas que conséquences aux victimes, enfin aux agressions sexuelles et aux viols, et qui parle très très bien de tout ça, de ces effets dévastateurs. Alors, en Suède, les organisations de défense des droits des femmes et les personnes militant pour la défense de ces droits ont pendant plus de 10 ans mené campagne pour obtenir cette réforme de la législation. Donc, en Suède, il faut savoir qu'en 2013, 3 jeunes hommes accusés d'avoir violé une jeune fille de 15 ans avec une bouteille de vin jusqu'à ce qu'elle saigne avaient été acquittés. Ce qui avait déclenché en Suède la formation d'un mouvement national qui s'appelle FATA, F-A-T-T-A, qui signifie « comprends-le ». Et le message s'est progressivement propagé grâce à des actions de campagne et de sensibilisation du public. Il a fallu donc attendre 5 ans, donc de 2013 à 2018, mais la législation suédoise reconnaît enfin à présent qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. L'Espagne, le Portugal et le Danemark seront peut-être bientôt les prochains pays à reconnaître dans leur droit qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Les gouvernements de ces pays, donc en Espagne, au Portugal et au Danemark, ont déclaré être disposés à discuter d'une telle révision de la définition juridique du viol. Et là encore, ce sont des avancées qui résultent du combat qu'ont mené des femmes en faveur de ce changement. Donc on peut se rappeler en Espagne que des millions de femmes étaient descendues dans la rue le 8 mars 2018 pour défendre tout un ensemble de causes liées aux droits des femmes et notamment le droit de ne pas subir un viol. Il y avait eu en Espagne l'affaire dite de la Manada où 5 hommes ont été déclarés coupables d'abus sexuels et non de viol et qui avaient également déclenché une vague de manifestations dans tout le pays. Et un mois plus tard, la vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a annoncé en juillet une réforme du code pénal pour introduire la notion de consentement sexuel explicite. Au Portugal, ce qui s'est passé, c'est que des femmes ont été révoltées par une décision rendue par un tribunal dans une autre affaire qui a eu un grand retentissement. Deux hommes ont été déclarés coupables d'abus sexuels sur une personne incapable d'opposer une résistance et ont été condamnés à une peine avec sursis. Cette affaire concerne l'agression qu'a subie une femme dans les toilettes d'un bar et durant laquelle elle a plusieurs fois perdu connaissance. Les manifestations et les débats dans les médias portugais qui ont suivi ont montré que les femmes refusent de se taire quand leurs droits sont bafoués. Alors au Danemark, où cette loi sur le viol fondée sur le consentement risque de passer, c'est aussi à la suite d'appels lancés par des militants et des victimes danoises. En Norvège, au cours des 5 dernières années, un nombre extraordinaire de lycéens de tous les genres ont participé à la campagne contre le viol. Mais cette année, les représentants politiques norvégiens les ont trahis en rejetant une proposition visant à adopter une loi basée sur la notion de consentement. Malgré tout, en Norvège, la tendance globale qui se dessine va dans le bon sens. Les gouvernements européens ne peuvent pas continuer de ne tenir aucun compte des appels lancés par les femmes qui réclament l'autonomie sexuelle. Si les femmes mènent campagne contre le viol depuis de nombreuses années, le mouvement MeToo a permis d'élargir l'espace de dialogue, donnant encore plus de poids à leur voix. En Irlande aussi, rappelons-nous les récentes manifestations et une campagne en ligne qui a été menée à la suite du procès pour viol, au cours duquel le string d'une adolescente a été montré au jury. Et cela constitue un autre exemple encore d'action et de mouvement de solidarité alimenté par la colère des femmes. Puisque dans les heures qui ont suivi la publication de cette affaire dans les médias, des centaines de femmes avaient posté des images de leurs sous-vêtements sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vais vous faire une petite pause musicale avec une chanson qui s'appelle Journey of Life par Yom. Révolution sera féministe sur Radio Galère. Donc, ça fait longtemps que je voulais aborder ce thème des violences sexuelles, des viols en particulier. Et parce que, notamment, j'ai été effarée de ces chiffres, à savoir que sur les plaintes pour viol, 70% des plaintes sont classées sans suite, 15% seront disqualifiées, et au total de toutes les plaintes, 10% des plaintes feront l'objet, seulement 10% feront l'objet de condamnation. Ce qui veut dire que, en fait, sur l'ensemble des viols commis, puisque la plupart des femmes ne portent pas plainte, ne réussissent pas à porter plainte, et je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, en fait, sur l'ensemble des viols commis, on arrive à des chiffres dérisoires de condamnation, c'est-à-dire 1% des viols aboutissent à une condamnation pour les adultes violés. Et en ce qui concerne les enfants, c'est encore plus terrible, c'est-à-dire que 0,3% des enfants violés voient leur violeur condamné. Et en fait, ces chiffres, depuis que je les connais, j'arrive pas à m'en remettre, à les accepter. Je me demandais, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe par rapport, qu'est-ce qui se passe chez nous par rapport à tout ça ? Et du coup, je me suis intéressée au sujet. Comme vous voyez, je me suis rendu compte que, en Europe, il y a beaucoup à faire. Comme vous voyez, les lois sur traite le viol d'une drôle de façon, puisque comme on vient de le voir, on ne s'occupe pas du non-consentement ou du consentement de la victime. Ce n'est pas ça qui caractérise un viol, malheureusement. Et je me suis intéressée à la parole de Muriel Salmona, qui est une spécialiste, en fait, qui est une psychiatre spécialisée en traumatologie et victimologie. Elle a créé une association qui prend en charge les victimes de violences conjugales et sexuelles. Et elle est très active, donc c'est évidemment une féministe aussi. Et elle publie, elle écrit beaucoup. Elle avait publié notamment après la tribune, notamment de Catherine Deneuve, du droit à se faire importuner, etc. Enfin, donc elle avait vraiment réagi très bien, très beau texte. Et puis, en fait, elle intervient souvent, enfin, sur toutes les affaires sur la justice pour expliquer en fait que les lois ne sont pas du tout adaptées, que les victimes ne sont pas du tout protégées. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'elle disait. Donc, je vais essayer de vous en parler. Et en fait, je vais vous faire écouter un peu sa parole. Mais grosso modo, elle explique que c'est normal, en fait, que les victimes ne portent pas plainte très peu. Bien, déjà parce qu'elles savent que ça ne va pas servir à grand-chose, on l'a vu avec les lois. Mais surtout, le fait du traumatisme qu'elles ont subi leur crée une anesthésie pratiquement émotionnelle et physique. Et donc elle explique ça très bien, puisqu'elle est spécialiste donc de cette traumatologie. Donc elle parle de phénomènes de dissociation de la mémoire et tout ça. En fait, c'est comme si le cerveau disjonctait. En fait, le stress est tellement fort que pour supporter un viol, c'est comme une torture pour une femme. Et où les violences conjugales sont tellement, c'est tellement fort, on risque la mort du cœur ou du cerveau. Du coup, le cerveau se disjoncte et crée une dissociation qui fait que vous êtes un peu, que vous ne vivez, enfin, vous souffrez plus. Mais du coup, vous êtes déconnecté de vous-même et de la situation. Et ce qui peut expliquer que des victimes peuvent subir des violences pendant des années, des années, des années, des années, et sembler ne pas avoir d'émotions. Ce qui fait que même pour les proches, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe, de s'alerter. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes croient que la victime est consentante pratiquement à ces violations. Et alors qu'en fait c'est un phénomène physique du cerveau qui disjoncte, qui s'abîme, qui a des lésions après. La mémoire aussi est complètement perdu en fait, pour ne plus vivre tout ça. Il y a c'est vraiment incroyable quoi, une dissociation, mais qui du coup est bénéfique finalement à l'agresseur, puisque la victime est paralysée et ne va pas réagir. Et puis quand la victime sera finalement finalement, si c'est possible qu'elle arrive à dénoncer, qu'on arrive à la protéger en la mettant loin de son agresseur, il n'y aura plus la dissociation et la victime va se remettre à revivre, sa mémoire va se raviver de tous de toutes ces phrases de l'agresseur, etc., de tout ce qu'elle a vécu, ce qui risque pour elle d'être insupportable si elle n'est pas suivie. Et donc, c'est très compliqué à comprendre. Et ce que Muriel Salmona demande, c'est qu'on prenne en compte que les gens qui suivent en fait les plaintes sachent ce qui se passe et du coup puissent comprendre mieux et protéger les victimes et condamner les violeurs, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc voilà, elle avait notamment écrit aussi, par exemple, à propos Madame Sauvage, en disant que c'était complètement aberrant qu'elle ait pu être condamnée et que en fait les juges n'avaient pas compris le fait qu'elle ait tué son mari après coup. Et en fait, c'était juste impossible pour elle de le faire au moment tip-top des violences qu'elle avait subies depuis de nombreuses années à maintes reprises. Donc, il n'y avait pas forcément eu... on l'avait accusée de pas être... Comment ça s'appelle ? Je ne trouve plus le mot. En défense sur le moment, ce qui est complètement absurde au moment où elle a tué son mari. Voilà, bon, en tout cas, je vais revenir aussi, elle revient, donc Muriel Salmona, je vais revenir sur le fiasco d'une loi, la loi qui a été promulguée à l'Assemblée, qui a adopté à l'Assemblée nationale, la loi contre les violences sexuelles et sexistes promulguée par le gouvernement, et qui n'a pas du tout renforcé la protection des mineurs contre les violences sexuelles, bien au contraire. Donc, voilà pourquoi, Muriel Salmona estime que les députés sont complètement passés à côté de la mesure principale de la loi, c'est-à-dire le seuil en dessous duquel tout acte sexuel commis sur un enfant par un adulte est considéré comme une agression sexuelle. Cela n'a pas été fait. Et donc, en fait, on reste dans une situation où l'on va pouvoir encore rechercher le consentement d'un enfant, alors que ce que demandaient de nombreuses associations féministes, c'était que soit reconnu qu'une pénétration sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans est une violence en soi. Et donc, le texte n'a pas répondu aux inquiétudes des diverses organisations internationales. D'ailleurs, l'ONU a reproché à la France de ne pas juger les viols d'enfants en tant que crime. Donc malheureusement, je vois que j'arrive à la fin de mon émission. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de vous passer la parole de Muriel Salmona. Du coup, je vais devoir aller plus vite que ce que je pensais. Donc en fait, bon... La loi a été vidée de son contenu et donc la mesure phare sur le seuil d'âge du consentement n'a pas été adoptée. Donc en fait, la loi, qu'est-ce qu'elle est ? C'est juste un plâtrage pour améliorer la caractérisation de la contrainte et de la surprise. Bon, il y a quand même une mesure positive, c'est une augmentation des peines pour l'atteinte sexuelle qui passe de 5 à 7 ans d'emprisonnement. Mais ce qui est très grave, c'est que l'absence de consentement d'un enfant à des actes de pénétration sexuelle n'a pas été actée. Et il n'y a pas d'interdit clair qui protège de façon absolue les enfants en criminalisant les actes de viol. Cela n'a pas été posé. Il n'y a pas eu non plus l'imprescriptibilité des crimes sexuels. Cela n'a pas été adopté. Donc au final de la loi, au lieu de poser un seuil d'âge du consentement à 15 ans, qui aurait permis de criminaliser toute pénétration sexuelle par un adulte, le texte commun ne fait que préciser les notions de contrainte et de surprise de la définition du viol et des agressions sexuelles pour mieux les caractériser par l'abus de la vulnérabilité de la victime de moins de 15 ans, ne disposant pas du discernement nécessaire. L'enfant ne sera pas protégé puisqu'il y a toujours nécessité de prouver la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, même quand il s'agit d'un enfant qui est pénétré sexuellement par un adulte. Et ceci est un défi à l'entendement pour Muriel Salmona. C'est un déni intolérable de la violence, de l'acte lui-même, de la pénétration, de son caractère cruel et inhumain sur un enfant. Elle dit qu'un enfant ne peut en aucun cas être consentant à un acte qui lui fait violence, auquel il n'a ni les capacités ni la liberté de s'opposer, et dont il ne peut pas comprendre les enjeux ni les conséquences sur sa vie et son intégrité physique et mentale. Avant 15 ans, un enfant ne peut jamais être consentant à des actes sexuels avec un adulte. Donc, je vais devoir rendre l'antenne. J'y reviendrai dans une prochaine émission, puisque je n'ai pas eu le temps de bien vous expliquer l'historique, les dernières actualités et vous faire entendre tout ce qu'elle dit à propos de la mémoire traumatique, etc. Donc j'ai commencé à aborder le sujet, mais problème du temps qui passe très très vite. Donc, je vous dis à dans 15 jours, peut-être, si tout va bien, et que voilà, je suis là. Merci de votre écoute, au revoir.
Sans passer les femmes.